On continue pour le message concernant le pastorat. Aujourd'hui, je donne le titre « Ce qui est l'appel au pastorat ?» Ce qui est l'appel pour être pasteur. La semaine dernière, je vous ai parlé de ce qui n'est pas l'appel au pastorat. Donc aujourd'hui, au contraire, nous allons voir ce qui est l'appel au pastorat. Je voudrais commencer avec un des versets qu'on a eu aussi la semaine dernière, 1 Timothée chapitre 3 et verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est 1 Timothée 3, 1. Ce mot « évêque » est quasiment synonyme avec le mot « pasteur » et « ancien ». Il y a des nuances de différence. Je le répéterai tout à l'heure. Donc, en guise d'introduction, je voudrais dire que votre choix de pasteur, donc, quelle que soit l'Église, mais spécialement pour notre Église, votre choix de pasteur sera très important pour la vie et l'avenir de votre Église. L'homme que vous désignerez comme pasteur, comme responsable de votre communauté, va obligatoirement influencer à la fois les membres et l'avenir même de l'Église. Par exemple, un pasteur pourrait éloigner son Église dans une mauvaise doctrine, ou un pasteur pourrait encourager les membres à soutenir certains missionnaires, ou par exemple un orphelinat, ou encore un pasteur pourrait amener une Église à l'achat, dans l'achat d'un bâtiment qui s'avère à la fin d'être trop cher pour l'Assemblée. Donc, le pasteur, il va vous influencer pour le bien ou pour le mal. Et donc, c'est très important. Voilà l'influence que peut avoir un pasteur sur l'avenir de votre assemblée. Le choix du pasteur ne se fait pas avec légèreté. C'est un choix très important. Dans Actes chapitre 14, versets 21 à 23, que nous n'allons pas lire tout de suite, mais plus tard, ces versets nous montrent que c'était après avoir jeûné et prié que le pasteur était élu par les membres de chaque église. Ce n'était pas avec légèreté. Je voudrais dire aussi que l'appel au pastorat ne s'applique pas aux femmes. Non seulement il n'y a aucune autorité biblique qui soutient l'idée d'établir les femmes comme pasteurs, mais la Bible interdit dans toutes les églises que les femmes soient les porte-parole dans l'Assemblée. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 32 à 34. Une femme pasteur est bibliquement illégitime. Pourtant, il y a beaucoup d'autres opportunités qui s'ouvrent aux femmes pour servir dans le christianisme. Elles peuvent, par exemple, servir en tant que diaconesse ou missionnaire ou bien d'autres choses. Je ne focalise pas sur ça aujourd'hui, je focalise sur l'appel des pasteurs. Ça ne change pas le fait que les églises ont besoin des femmes consacrées à Dieu. C'est important, mais pas pour les établir en tant que pasteurs. Je veux spécifier aussi que, puisque nous voulons apprendre et suivre la pratique biblique, par laquelle les églises locales établissaient leur propre pasteur, nous parlerons pas des systèmes non bibliques tels que les hiérarchies et les synodes. c'est pas la chose que nous allons poursuivre, puisque c'est pas biblique. Donc voici les trois points que nous allons voir ensemble ce matin. Premièrement, quel est l'appel au pastorat? Deuxième, quel est le travail du pasteur dans son église? Et troisième chose, comment se préparer pour devenir pasteur? Ce n'est pas le tout dit, hein? C'est un seul message pour parler de tout ça. Donc, je voudrais lire quelques versets. Donc, on va voir Actes chapitre 6. On va lire versets 3, 5 et 6. Actes chapitre 6. Verset 3. C'est pourquoi. Donc, il y avait besoin de quelques activités dans l'église. Et donc, il fallait faire un choix. Donc, au verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes. Donc, les apôtres disent à l'église, vous, l'église, choisissez parmi vos membres sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons chargerons de cet emploi. Donc, on va lire aussi le verset 4, ça parle des apôtres, et nous, donc les apôtres, nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition qui était faite par les apôtres pour l'activité de l'Église, plus à toute l'Assemblée, l'Assemblée de Jérusalem. Ils élurent, donc ils ont voté, ils ont élu, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir dans Actes chapitre 14. Actes chapitre 14, on va commencer avec le verset 21. Donc c'est Paul qui, avec son équipe, est en train, après avoir fait plein d'évangélisation, ils ont démarré les petites assemblées et ils sont en retour vers Antioche, d'où ils sont partis comme missionnaires. Donc, ils sont sur le retour. Verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc là, c'est globalement leur activité. Et dans les autres activités qui se faisaient, verset 23, ils désignèrent des anciens dans chaque église. Donc, on a vu ça la semaine dernière. Désigner, ça veut dire faire élire. Ils ont demandé aux gens de l'église de vérifier les qualifications de ces personnes proposées et de lever la main à voter pour l'établissement. Donc, désigner des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc évidemment, le pasteur doit être croyant. On va voir aussi, comme on a vu il y a quelques semaines, peut-être quelques mois disons, au Tite, le livre de Tite, chapitre 1, Tite chapitre 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, donc de la manière que je t'ai dit comment faire, tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc, qu'ils proposent pour chaque ville, donc l'église de chaque ville, choisissent et élisent son pasteur. S'il y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. car il faut que l'évêque soit irréprochable, etc. OK? Donc, ce sont quelques versets qui parlent de l'établissement des pasteurs, qui parlent de l'appel du pasteur. L'appel, comme j'avais donné trois appels différents la semaine dernière, on a dit qu'aujourd'hui c'était l'appel d'autorité ecclésiastique. Et cet appel du pasteur est sous l'autorité de l'église locale. Donc, ecclésiastique, dans notre vocabulaire, veut dire église locale. Ce que nous lisons dans les versets que je viens de citer n'est pas quelque chose de nouveau. Car dans le judaïsme, les chefs de synagogue étaient élus. Et comme on l'a vu dans Actes chapitre 6, les diacres ont été choisis par élection. En Actes chapitre 14, nous avons vu que Paul utilisait cette méthode d'élection dans chaque église quand il revenait vers Antioche. Et Paul a mandaté dans Tite à faire la même chose sur l'île de Crète. Par la voix des membres de l'Église, Dieu appelle un homme au pastorat. Ceci veut dire que Dieu a créé l'office, la fonction du pasteur pour chaque Église locale et Dieu a donné à chaque Église la responsabilité d'élire un de ses membres pour entrer dans les fonctions du pasteur. Cette responsabilité se repose seulement sur l'église locale et ne concerne aucune autre église. Et bien que les chrétiens aient l'habitude de respecter les pasteurs des autres communautés, il faut savoir que l'autorité pastorale n'est valable que dans son église locale qu'il a élue. Même si nous sommes minoritaires dans le monde du christianisme, nous insistons qu'en accord avec la pratique du Nouveau Testament, chaque Église a le droit et le devoir d'élire ses propres officiers. Donc, par officier, on veut dire les pasteurs, les diacres et d'autres choses, peut-être trésoriers, etc. Le Nouveau Testament montre que l'appel du pasteur est sous l'autorité de l'Église locale. Un pasteur, ou évêque ou ancien est appelé, bon, ça dépend du vocabulaire que chaque Église utilise, il est appelé sous l'autorité seule de l'Église locale par le vote de ses membres, ce n'est pas par le vote de quelques-uns qui sont plus hautement placés dans l'Église, c'est tout le monde vote. Pour être son unique troupeau, donc le pasteur et le berger de ce troupeau, dont il est à la fois membre et responsable. Il est membre et il est responsable, donc s'il est membre et devient irresponsable, eh bien, on va changer le responsable. Voilà le cheminement. Un homme désire servir Dieu et la communauté chrétienne. Et donc, il se prépare. L'Église reconnaît ses qualifications. Les membres de l'Église lui proposent la fonction de pasteur. Donc, il faut savoir que vous ne devez pas proposer à plusieurs personnes à la fois. On va proposer la fonction de pasteur à 10 hommes et puis on va voir lequel lui plaît le plus. C'est un homme à la fois. On propose, on choisit ou pas, mais une personne à la fois. Après, donc, l'homme considère la proposition de l'Église dans la prière. Par la suite, les deux parties discutent des attentes, des besoins, des responsabilités de chaque partie. Parce qu'entre le pasteur et l'Église, il y a les attentes, il y a des responsabilités, il y a un salaire, il y a des horaires à respecter, peut-être. Peut-être le pasteur ne veut pas être téléphoné tous les soirs à minuit ou 1h du matin. Hein, il y a des choses à régler. Tous prient pour la sagesse de Dieu dans cette décision. Par la suite, l'homme accepte ou rejette la proposition. dans le cas échéant, les membres de l'Église vont alors voter pour ou contre le pastorat de cet homme. Et une fois élus, les membres de l'Église s'identifient avec le nouveau pasteur par l'imposition des mains. En France, à cause du manque de pasteurs, il arrive que parfois un pasteur serve deux églises. Mais ceci est l'exception et non pas la règle. Normalement, un pasteur a la charge d'une seule église. L'église dont il est membre. Notons aussi que le fait d'être appelé au pastorat ne signifie pas qu'un homme soit plus près de Dieu que les autres chrétiens. Jésus a dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier et le serviteur de tous. Pourquoi on utilise le mot ministre? En principe, le mot ministre veut dire serviteur. Il fait administration, l'administration des autres. Mais nous, on avait goût, ministre d'État. On a renversé les rôles un peu. En revanche, vouloir être élevé comme pasteur à une classe supérieure revient de l'idée nicolaïque. Et là, c'est une pratique qui surélève les pasteurs au-dessous du peuple. Ils ont une grande autorité sur le peuple, ce qui n'est pas du tout l'idée biblique. Il n'y a pas de classe de pasteur ou de prêtre dans le Nouveau Testament. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit et sont capables de servir Dieu, chacun selon le don. Le Nouveau Testament dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, que le Seigneur a donné quelques-uns comme pasteurs et enseignants. Comme tous les chrétiens, chaque pasteur a ses dons particuliers. L'Église appelle un homme avec ses dons, avec ses talents, avec ses faiblesses, pour remplir la fonction du pasteur. Vous n'allez pas élire une personne parfaite. Ça n'existe pas. Notons bien que c'est la fonction ou la position de service que le Seigneur a donné pour chaque église et non pas l'homme en particulier. L'homme est choisi par l'église sous l'autorité de l'église, la responsabilité de l'église. L'église choisit un mauvais pasteur, c'est pas la faute de Dieu, c'est votre faute. C'est la faute de l'église de choisir une mauvaise personne. En résumé, l'appel au pastorat ou l'ordination biblique signifie d'une part, l'Église choisit l'homme et lui propose les conditions de service, un peu comme un contrat de travail, n'est-ce pas? D'autre part, l'homme accepte la proposition. L'accord doit être volontaire des deux côtés, Église et pasteur. L'appel au pastorat est un arrangement par consentement et discussion mutuelle formant un lien entre le peuple et le pasteur. Maintenant, nous allons parler de ce qu'un pasteur est appelé à faire. Bon, c'est bien, on va appeler le pasteur, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi le travail du pasteur? La charge du pasteur comporte diverses responsabilités. Sans parler des responsabilités modernes devant le gouvernement ou la gestion de l'association, nous allons voir seulement plusieurs des responsabilités bibliques auxquelles le pasteur est appelé. L'activité du pasteur ressort surtout dans ses prédications, son enseignement, ses conseils et ses visites. Donc, première chose, le pasteur doit nourrir l'Église par la parole de Dieu. 1 Pierre 5, 2 dit en partie, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Le berger a la responsabilité de nourrir le troupeau. Puis le pasteur doit édifier l'église, la construire, la fortifier. C'est-à-dire, il doit rendre utiles les membres dans les divers ministères fondamentaux d'une église. Une partie de Éphésiens chapitre 4, verset 12 dit que le pasteur doit emmener les gens travailler pour le perfectionnement des saints, donc ça c'est les membres de l'église, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Aussi, le pasteur doit protéger ou veiller sur l'église. La signification même de ce mot évêque est celle de gardien ou de surveillant. Dans 2 Timothée chapitre 4 et verset 2, nous lisons prêche la parole. Paul parle à Timothée, le pasteur. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Le pasteur doit aussi visiter les malades. Dans Jacques chapitre 5, verset 14, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église qui vont venir et s'occuper de lui. Le pasteur doit évangéliser. Un pasteur participe à l'évangélisation. 2 Timothée chapitre 4 et verset 5. Mais toi, pasteur Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Et puis aussi, le pasteur doit préparer l'église, si possible, pour l'avenir. Et on lit ça dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, donc Paul toujours qui parle à Timothée, le pasteur, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le. Donc c'est le dépôt de la foi que Paul a reçu de Jésus, qu'il a confié à Timothée, confie-le à des hommes fidèles. Mais n'importe quel, pas n'importe quel homme fidèle, mais des hommes fidèles qui soient eux-mêmes capables de l'enseigner aussi à d'autres. Okay? Pour que la foi continue. Ce verset dit que le pasteur, donc Timothée, ou disons n'importe quel pasteur, doit préparer des hommes à prendre le relais. Timothée doit sélectionner des hommes qui lui semblent capables d'enseigner d'autres hommes. Un pasteur, il veut voir que l'œuvre du Seigneur traversera plusieurs générations. C'est pour cela qu'il veille sur le choix et la préparation des futurs pasteurs. Donc, comment savoir si on est appelé à être pasteur? Comment se préparer pour devenir pasteur? C'est le troisième point de ce matin. Normalement, un homme, donc quoi que soit son âge, il va ressentir le désir de vouloir servir Dieu, de consacrer sa vie au service de Dieu. Donc, un homme à part, ce désir-là de servir Dieu peut exister également chez les sœurs, pour les services chrétiens qui sont adressés à elles. Il ne faut pas penser que Dieu ne parle que de ou attire les hommes. Il parle à tout le monde, chacun dans son domaine. Concernant le pastorat, 1 Timothée chapitre 3, verset 1 dit, cette parole est certaine. C'est un point absolu. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Le mot désir se trouve deux fois dans ce verset. C'est le mot aspire et désir. Vouloir devenir pasteur ne relève pas de l'orgueil. Oh, il est orgueilleux, il voudrait être pasteur. Non. Paul dit que c'est une bonne chose. Par contre, être pasteur par obligation deviendra une lourde charge. comment savoir si l'on est appelé à être pasteur? Donc, il y a plusieurs points. Combien de points j'ai mis? 4-5 points, et puis on va revenir sur le mot désir. Donc, en premier, je parle de désir personnel, et on va revenir sur cette idée par la suite. Si vous ressentez le désir de servir Dieu, je veux dire, si aujourd'hui vous ressentez ce désir de vouloir servir Dieu, dès maintenant, il faut apprendre à servir les frères et sœurs de l'Église. L'attitude de l'homme dans le service est très importante. Un serviteur va demander, « Que puis-je faire pour vous servir, pour vous rendre service ?» Il s'humilie. Jésus s'est donné un modèle. Vous pouvez le lire dans vos Bibles, dans Marc chapitre 10, versets 43 à 45, et aussi dans Jean chapitre 13. Un pasteur sera respecté à cause de ses fonctions de pasteur, bien qu'il soit le serviteur de tous. Et l'attitude correcte du pasteur est celle de service. L'attitude de l'Église est de l'honorer à cause de son service. Donc, premièrement, c'était le désir. Il y a un désir d'être pasteur. Deuxième chose, remplir les qualifications. Là, vous pouvez lire dans 1 Timothée chapitre 3 et Tite chapitre 1. Et en tout cas, nous allons revoir ce point en janvier. Donc, on ne parle pas aujourd'hui. Troisième point, porter du fruit. Le pasteur va encourager, il va rediriger les personnes, il va bénir, il va aider, il va conseiller, il va éduquer, il va former. Le pasteur va porter du fruit dans son assemblée. Et quatrième, le ministère du pasteur sera apprécié par l'Église. Si l'Église n'apprécie pas le ministère, le travail de le pasteur, il ne faut pas le garder. Une église va apprécier le pasteur, son travail. Et cela, non pas simplement pour un jour ou trois mois, mais à travers le temps. La Bible dit nettement dans 1 Timothée 3:1, comme on vient de lire, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. On va regarder ces mots. Premièrement, le mot « aspire », « aspirer ». Ce mot signifie « désirer fortement ». Donc, quand je dis ce mot signifie, je veux dire dans la langue d'origine. Hein, ce n'est pas dans le français, mais « aspirer » dans le grec, le mot veut dire « désirer fortement », « avoir de l'ambition », « aspirer à », « essayer d'atteindre ». On peut dire que l'appel au service de l'Église est une forte conviction intérieure qu'au lieu de faire autre chose de ma vie, on veut servir Dieu. Dans le grec, ce mot, la charge de l'évêque, c'est un seul mot, qui signifie superviser, surveiller, visiter. C'est l'idée d'avoir la responsabilité de la bonne santé des membres de l'Église. Avec des nuances, je le répète pour insister, le mot évêque est synonyme des mots pasteur et ancien. Désire une œuvre excellente. Cette phrase fait ressortir combien est importante ce désir et l'œuvre même. Ce mot, donc le deuxième mot pour désir, donc le premier mot aspirer, le second mot désirer, ce mot désir est le mot convoité. Normalement, on pense convoité, c'est un péché, n'est-ce pas? Mais ici, on utilise le mot convoité, désiré, dans le sens de fixer votre cœur sur l'objectif. Mon cœur est fixé sur l'objectif de devenir pasteur. Maintenant, on va focaliser un peu plus sur cette idée d'aspirer ou désirer de devenir pasteur. Le désir. La Bible nous dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2, verset 13. Ce verset est adressé à tous les chrétiens concernant la volonté de Dieu pour toutes nos vies. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En particulier, ceci veut dire que le désir d'être pasteur peut venir de Dieu. Dieu agit dans la vie de quelqu'un pour qui désire être pasteur. Mais le désir d'être pasteur peut aussi venir de la chair, avec les résultats désastreux, comme on a vu la semaine dernière, et on va voir encore maintenant dans 3 Jean chapitre 9 à 11, où Jean dit que le pasteur Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, donc c'est un problème d'orgueil, ne nous reçoit point. Il ne reçoit même pas l'apôtre Jean dans son église. C'est pourquoi, si je vais vous voir, si j'en viens voir son église, je rappellerai les actes qu'il commet. Et tenant contre nous des méchants propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, ceux qui voudraient recevoir les autres frères, il les empêche et les chasse de l'église. Cet homme ne devait pas être pasteur. Et comme on a vu la semaine dernière, eh bien, Jean a proposé un autre homme qui pourrait peut-être être élu à la place de cet homme. C'est pour cela que l'Église doit évaluer les qualifications de l'homme, que nous allons voir en janvier. D'accord? Il faut bien faire la distinction entre la préparation et la qualification. Beaucoup de chrétiens se trompent en pensant que ce sont les études théologiques qui qualifient un homme pour le pastorat. Bien que ces études soient importantes, le plus important sont ces qualifications morales, familiales et personnelles. Mais le désir et la préparation seule, sans les autres choses, ne constituent pas en soi un appel au pastorat. Il faut faire attention là. Si vous ressentez le désir de servir Dieu, vous devriez faire bien attention à votre préparation dans tous les domaines de votre vie. Il ne faut pas attendre la fin de votre formation intellectuelle pour vous impliquer dans le service de Dieu et des autres chrétiens. Dès aujourd'hui, mettez-vous au service de Dieu et au service des frères et sœurs dans l'Église. Laissez Dieu vous diriger sur le chemin qu'il a tracé pour vous. Peut-être qu'il va vous emmener à être pasteur ou peut-être autre chose. Lui, il ne se trompe jamais. Ceux qui marchent en avant avec le Seigneur sont bénis par le Seigneur. Il vous dirigera plus loin dans sa volonté vers le service qu'il a prévu pour vous. L'historien baptiste Ramseyer dit que les anabaptistes avaient des exhortateurs qui pouvaient être ministres des pauvres ou diacres en même temps, mais qui n'avaient pas, dans la règle, le droit d'administrer le repas du Seigneur. Après un certain temps d'épreuve, les exhortateurs qui manifestaient les dons requis étaient solennellement consacrés au pastorat. Chez les anabaptistes persécutés, tandis que chaque église locale avait un ou plusieurs exhortateurs, il n'y avait d'anciens que dans les églises les plus importantes, ce qui les obligeait à faire des fréquents voyages pour visiter les églises. Donc, c'était dans un temps, c'était le 16e, 17e siècle. Il y avait beaucoup de persécutions, il y avait beaucoup de morts et tout ça à cause des persécutions. Et donc, il y avait des églises, beaucoup d'églises sans pasteur, mais avec les frères qui participaient dans le ministère de l'église. Et quand on dit, ah oui, il a vraiment un don pour ça, était élevé à être pasteur dans l'église. Ces exorcateurs chez nos ancêtres, c'est nos ancêtres, les anabaptistes, étaient des pasteurs en formation. Ils prêchaient et visitaient les malades régulièrement. Quand les croyants appréciaient l'un d'eux, les croyants élevés, cet homme, au poste de pasteur, ce n'était pas l'homme qui s'est élevé. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour l'orgueil chez le pasteur. Il n'y a pas d'appel mystique ou surnaturel, miraculeux. Nous observons que les prédicateurs apprenaient le ministère à mesure qu'ils servaient les croyants. Et je peux vous dire que la France a besoin de nombreux exhortateurs, hein, de nombreux pasteurs en formation. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2 versets 4 et 5, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. » Il faut noter, selon ces versets, que être pasteur n'est pas toujours agréable. Être pasteur est une responsabilité, une charge, que l'on veuille ou pas. Donc la phrase « non par contrainte » dans ce verset suggère que la charge était mal vécue par certains pasteurs. Au lieu de nourrir une mauvaise attitude envers Dieu et envers les chrétiens, il devait changer sa pensée et se mettre en accord avec Dieu. Servir désormais volontairement en accord avec la volonté de Dieu. L'appel au pastorat n'est pas en premier un sentiment, c'est une obéissance au maître, un acte de foi. 1 Timothée chapitre 3 verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, de pasteur, il désire une œuvre excellente. Alors je vais dire un peu mon propre témoignage. Donc personnellement, donc j'ai commencé à avoir le désir de servir le Seigneur. Un peu après avoir accepté Jésus comme mon sauveur, quand j'avais 12 ans. Plus tard, quand j'avais 18 ans, je me suis présenté à Dieu dans la prière pour faire sa volonté avec ma vie. C'était vague. Sa volonté avec ma vie. À chaque opportunité, j'impliquais dans les activités de service à l'église. Désirant donc servir Dieu, j'ai suivi la formation pour devenir pasteur. Donc, on traverse plusieurs années là, d'accord? Je servais le Seigneur Jésus dans l'église. Je m'occupais de chaque responsabilité que le pasteur me confiait. Enseignement des enfants, prédication, évangélisation, tendre la pelouse, et oui, même nettoyer les toilettes. Il y en avait 10. À cette époque, en plus de mes études, je jonglais 3 emplois à temps partiel. Dans mon cas, alors que je servais le Seigneur en servant l'église locale et que je me formais à l'école pastorale pour devenir pasteur, le Seigneur m'a dirigé vers le service missionnaire. Donc moi qui pensais devenir pasteur, je ne suis pas devenu pasteur, je suis devenu missionnaire. À la fin, mon église m'a ordonné ou appelé au service chrétien. Et puis, enfin, mon église m'a consacré au service missionnaire en France. Dieu a donné les uns comme pasteurs. Toutes les églises ont besoin des pasteurs. Frère, à mon avis, Dieu appelle beaucoup plus d'hommes à son service en France que les quelques-uns qui répondent positivement. La France a besoin de pasteurs. Ce verset ne part-il pas à votre cœur? Si quelqu'un aspire à la charge de pasteur, il désire une œuvre excellente. Prions pour l'avenir de nos églises, de notre église. Prions que le Seigneur envoie des ouvriers dans nos églises, dans le champ de la France. Amen.
Amen.
OK.